Je vous invite dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 22. On va lire un verset, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. C'est le thème de mon message, c'est le titre de mon message. C'est vraiment cette pensée que j'aimerais vous partager ce matin. Un verset très simple, on va le lire deux fois pour bien s'en imprégner. Ézéchiel 22, verset 30. Je voudrais passer un mot peut-être à la génération qui n'en a pas, qui ont un téléphone ou un iPad et qui regardent leur téléphone. Rassurez-vous, peut-être les plus anciens, les jeunes qui ont leur téléphone là maintenant ou leur iPad, c'est juste parce qu'ils cherchent dans leur téléphone la Bible. Tout est sous contrôle, tout va bien. La Bible est dans nos téléphones maintenant. Ça, c'était un miracle. Ézéchiel 22, verset 30. « Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » Mais je n'en trouve pas. Je relis ce verset. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dieu cherche quelqu'un. Il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche une personne pour un but précis. Et Dieu, dans ce texte, semble pas découragé, mais comme déçu. Il cherche quelqu'un qu'il ne trouve pas. Est-ce que ça vous arrive de chercher quelqu'un, quelque chose et de ne pas trouver? Hier, on était en voiture pour aller à Angers. On était attendu par quelqu'un qui organisait le concert. On a tourné avec le camion dans des chemins qui ne sont même pas sur les cartes militaires. On s'est retrouvé au milieu des champs. On a dû passer sous des tunnels, d'anciens tunnels. On s'est dit, mais où est-ce qu'on est? On cherche et on ne trouve pas. Et quand on cherche et qu'on ne trouve pas, il y a quelque chose qui s'installe. On se dit, mais mince! Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Je devrais trouver la bonne direction, j'ai mon GPS, j'ai tout, et je ne trouve pas. Et Dieu, dans ce texte, littéralement, il dit, je cherche quelqu'un pour un but, pour quelque chose de précis, je vais m'arrêter dessus, et je ne le trouve pas. Alors, pour ce qui est du contexte...
On a un peuple qui a été déporté vers Babylone sous le règne du roi Nebuchadnezzar. On a à peu près 600 ans, 600 années avant J.C., Jésus-Christ, l'autre.
Il n'y a plus de conducteur spirituel, il n'y a plus de vision, il n'y a plus rien. On est déporté, on est dans un pays étranger, on est esclave et on est à la disposition des Babyloniens. Et pour comprendre qui est l'auteur du texte, qui est Ézéchiel, il faut réaliser qu'il a passé les 25 premières années de sa vie à se préparer pour le ministère. C'est un homme qui, depuis sa plus tendre enfance, il a passé 25 années à Jérusalem à se former, à recevoir, à être mis à part, à se consacrer pour le service de la maison de Dieu. Et vient au bout de 25 ans le temps de la déportation. Imaginez les jeunes, il y a plusieurs jeunes, j'ai vu des visages jeunes ce matin. Imagine que tu fais 25 années d'études, c'est pas mal déjà. Il y en a qui se disent, mais moi déjà deux, ça va être compliqué, mais 25 années de préparation, et au final, ce que tu as appris, ce pourquoi tu t'es préparé, tu ne pourras pas le faire. Tu es pris, tu es déporté et tu te retrouves dans un pays qui n'est pas le tien, esclave. Seigneur, c'est injuste ce qui m'arrive. Pourquoi tu permets ça? 25 années à ton service, 25 années de consécration, j'ai fait passer mes goûts, mes aspirations, mon jeu, mon moi, je l'ai mis de côté, je me tiens pour toi. Et au bout de 25 ans, alors que je suis prêt, je me sens prêt, je veux y aller, je me retrouve en prison, je me retrouve esclave, je me retrouve en dehors de ton peuple, je me retrouve dans une situation, dans une cité, dans un pays qui ne te reconnaît pas comme Seigneur. Et nous sommes les uns et les autres, quoi que nous en pensions, quoi que nous disions, nous sommes dans un pays, notre pays de France, où nous sommes dans cette situation. Notre pays, et je ne pense pas qu'à Nantes ce soit différent, ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on est cette poignée d'Ézéchiel ce matin, fidèles serviteurs, des gens qui se sont consacrés, qui ont fait le choix de se consacrer. Et on pourrait, comme Ézéchiel, se dire, mais pourquoi Seigneur, dans notre pays, pourquoi dans notre ville, ça n'avance pas aussi vite, ça n'avance pas aussi fort que ce qu'on aimerait. Pasteur Olivier me partageait l'histoire de votre église. Et il me disait, quand il est arrivé, et puis tout ce qui se passe depuis, c'est encourageant, c'est bon. Et moi, j'aimerais, je reconnais que Dieu est présent, je reconnais que Dieu agit, que Dieu sauve. Et à n'importe quel moment, ces gens de Nantes qui sont là depuis les 5 dernières années, vous levez la main et dites, c'est vrai, amen, Dieu m'a amené ici et je suis béni ce matin. Mais on veut plus. Et je suis sûr qu'Olivier veut plus. Et je suis sûr que vous voulez plus. Non pas parce qu'on compte les points, mais parce que c'est la pensée, c'est le cœur de Dieu. Dieu cherche son peuple. Dieu cherche des hommes, des femmes qui font le choix de se mettre à part et d'avancer avec lui, de marcher avec lui. Je reviens à mon texte, Ézéchiel, 5 ans après, donc il a 30 ans, ça fait 5 ans qu'il est en déportation. Il reçoit l'appel de Dieu, chapitre 2, verset 1er, on peut le prendre. Il est dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dieu s'adresse à Ézéchiel. C'est-à-dire, ça fait 5 ans, je suis dans le brouillard, tu ne parles pas, qu'est-ce qui se passe 5 ans sans une parole de Dieu, imaginez un peu. Imaginez 5 ans sans une parole de Dieu, sans rien. Et au bout de 5 ans, Dieu parle. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, debout. J'ai un message. Beaucoup ici, on a un téléphone portable. Quand la poche se met à vibrer comme ça, on fonce dessus, on regarde c'est quoi le message. Qui m'appelle? J'ai des amis, que se passe-t-il? Une urgence, une bonne nouvelle? Je dois avoir l'information, je veux l'information. Dieu, ce matin, ne veut pas faire vibrer nos téléphones. Dieu voudrait faire vibrer nos cœurs, notre conscience, nous secouer, dire « J'ai un message !» Chrétien de la ville de Nantes, j'ai un message pour toi. J'ai quelque chose qui vient de mon cœur et je t'appelle à quelque chose. Tiens-toi sur tes pieds. Mets-toi debout. C'est le temps de se lever, dit Dieu. C'est le temps de se tenir debout pour recevoir de lui les instructions. Tiens-toi sur tes pieds. C'est vraiment arrête de te lamenter. Arrête d'être écrasé. Arrête de dire ça ne marchera pas. Ça ne peut pas changer. Je ne vivrai pas autre chose. Les autres dans mon église là sont comme bénis. Ils avancent. Mais moi, je suis comme écrasé dans ma situation. Rien ne peut changer. Je suis écrasé. Dieu dit stop, lève-toi. J'ai un message. J'ai un message d'espoir. J'ai un message de vie. J'ai un message de possibilité. J'ai un message que je t'adresse parce que c'est possible avec moi. Ça fait 5 ans, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans que tu es écrasé, prisonnier. Dieu dit stop, lève-toi, j'ai un message. Dieu va accorder à Ézéchiel d'avoir des visions, des révélations claires. Il va mettre dans sa bouche un message pour le peuple qui est en captivité. Il faut comprendre que le peuple dans lequel on est vit dans l'apostasie la plus complète. Je l'ai dit, Dieu n'y est plus, on n'a plus rien. Mais j'aimerais simplement, qu'on ne fera pas toute l'étude du livre d'Ézéchiel ce matin, on n'a pas le temps, mais simplement quelques versets. Au chapitre 5, verset 11, voilà ce qui se passe du temps d'Ézéchiel. Et je pense que ça nous parle ce matin, écoutez-moi. Chapitre 5, verset 11, tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Est-il possible qu'au sein du peuple de Dieu, quand Dieu parle, il s'adresse à son peuple là. Est-il possible que dans son peuple, on puisse prendre ça et dire ça nous concerne? Tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. C'est quoi l'abomination aux yeux de Dieu? C'est quoi l'abomination? Est-ce que ça va être une statuette devant laquelle on va venir se prosterner et puis... C'est pas ça la pensée du texte. Il s'est passé quelque chose dans le peuple de Dieu, c'est que quelque chose a pris la place qui revenait à Dieu. Et Dieu dit ça, ça ne va pas du tout. Je veux que ta priorité, peuple de Dieu, ne soit pas ta personne, toute légitime soit-elle. Ça, moi, c'est ma priorité, dit Dieu. Mais j'aimerais que ta priorité, ce soit ma personne. J'aimerais que ta priorité, ce soit ta relation avec moi. J'aimerais que ta priorité, ce soit ta vie personnelle. Pas, je ne vous parle pas des 2 heures le dimanche matin à l'église, je vous parle de la vie du lundi au dimanche au complet. Je voudrais être en première place. Dieu a fait, alors qu'on s'est tourné vers lui, alors qu'on s'est donné à lui, Dieu a fait en nous sa demeure, son temple. Et alors qu'on lit ce texte, on peut dire, mais ça ne me concerne pas, moi je n'ai pas de statuette, je n'ai pas d'abomination, je n'ai pas d'idole. Qu'est-ce qui dans ma vie, qu'est-ce qui dans ta vie, mon frère, ma sœur, peut avoir pris la place de Dieu? Contre quoi on aurait pu troquer finalement la bénédiction, la vie avec Dieu? Je vais vous donner quelques pistes. Où tu mets ton temps, ton énergie et ton argent. Ça va juste peut-être nous aider à réaliser qui nous adorons, auprès de qui nous avons une relation, qui est la priorité dans notre vie. Et Dieu nous appelle à réaliser. Dieu dit, regarde, tu as souillé mon sanctuaire par tes idoles, par tes abominations. Pour Dieu, c'est inconcevable. Pour nous, c'est peut-être des fois concevable de mettre Dieu derrière et de dire, je vais faire à ma façon. Je vais demander à Dieu d'entrer dans mes projets. Je ne vais pas entrer dans les siens. Je vais dire, Seigneur, moi, je vais dans cette direction, je vais dans cette vision-là, je veux ça pour ma vie, et puis, s'il te plaît, bénis-moi. Monte dans la voiture. Dieu dit non. Non, non. Entre dans mes projets. Mes voix sont au-dessus de tes voix, dit Dieu. Entre dans mon plan, entre dans ma vision, je vais t'amener beaucoup plus loin que ce que tu peux imaginer. J'ai un message, dit Dieu. C'est possible, tu peux vivre plus que ce que tu vis maintenant. T'es assis sur un miracle. Nous sommes appelés à vivre dans un miracle. Moi, ce qui m'impressionne avec Jésus, c'est qu'il ne parlait pas des miracles. il les vivait. Et Dieu nous appelle à ne pas parler de miracles, pas parler de choses grandes, à vivre des choses grandes, à vivre le miracle. Chapitre 8, verset 14. Il y a un souci au sein du peuple de Dieu. Dieu parle et il dit, « Il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. » Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme ?» Dieu est choqué, scandalisé. « Vois-tu ?» Il y a des femmes assises qui pleurent Tammuz. Alors peut-être quelques précisions. Tammuz est le dieu babylonien, c'est une idole babylonienne de la végétation. Et lorsque à l'automne, les fleurs, la végétation fane, tombe, s'en va, dans la culture de l'époque, dans la croyance de l'époque, c'est comme si les dieux étaient fâchés contre le peuple. Alors les femmes sont là, puis elles pleurent, les feuilles tombent pendant 3 mois, on pleure. « Oh, Tammuz, oh, c'est triste, s'il te plaît, pardon, pardon. » Et on attend ainsi que la saison reparte, que les bourgeons reviennent. Et c'est cette mentalité de dire « on va manquer de quelque chose, on voit notre prospérité qui s'en va, on prend peur, c'est le temps de la crise. » Et puis on n'a rien, alors on prie, on pleure nos divinités, puis on se tourne vers quelque chose et il n'y a rien qui change, et d'un seul coup le printemps arrive et d'un seul coup ça repart. Et les femmes de Dieu se sont laissées gagner par ça. On vit dans des temps compliqués en France. Je ne suis pas prophète, je ne veux pas prophétiser de mauvaises choses, mais je pense que ça ne va pas aller en s'améliorant, parce que la Bible en parle. Mais au sein du peuple de Dieu, message que je voudrais très, très pratique ce matin, je ne veux pas prêcher des grandes choses abstraites, je voudrais vous partager des choses pratiques ce matin. Alors que notre pays tremble, vacille, c'est pas le temps de se raccrocher à Tammuz ou de pleurer Tammuz. C'est le temps de placer notre confiance dans le nom du Seigneur Jésus, qui dit « Cherche premièrement mon royaume, cherche ma justice. » Puis toute chose va être donnée par-dessus. « J'ai quelque chose pour toi, dit Dieu. » Ne te laisse pas gagner par la culture de ce monde. Nous sommes plongés, nous sommes entourés de gens qui pleurent Tammuz, qui pleurent leur divinité. Tout s'effondre et on pleure. Et Dieu dit à l'Église « Stop ce matin !» Ça ne vous concerne pas. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça ne sont pas vos divinités. Moi, j'ai quelque chose pour vous. Je suis là. Et quand Dieu passe et qu'il montre à Ézéchiel cette vision des femmes qui pleurent Tammuz, Dieu est choqué. Comment c'est possible au sein de mon peuple d'être à ce point gagné par la philosophie de ce monde? Dieu dit, stop, ça n'est pas possible. Chapitre 8, verset 16. À l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Quelque chose qui scandalise Dieu. C'est à quel point on peut être gagné par ce qui brille. Gagné par ce qui brille au point d'en arriver à tourner le dos au temple de Dieu, à son temple. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. Je me souviens de... Mon épouse avait fait connaissance sur la plage. Je viens de Dunkerque, il y a une plage, si. C'est pas là qu'il fallait rire, ni dire amen. Et mon épouse, sur la plage, fait connaissance du directeur du casino de Dunkerque. Et puis, ils sont là avec donc le directeur et son épouse. Ils discutent, ils viennent de s'installer, d'arriver sur la région. Et puis, ma femme peut parler à n'importe qui. Vous la mettez dans une pièce, elle connaît personne. Au bout d'une heure, elle connaît tout le monde, la vie de chacun, sait où ils habitent. C'est extraordinaire, c'est un don. Moi, il me faut des mois, des années avant de... Mais elle, directement. Et elle discute avec le directeur du casino, et elle sympathise, et on fixe un rendez-vous pour faire leur connaissance, pour tout ça. Et le directeur du casino, écoutez bien, nous invite à manger au casino. C'est la première fois que je suis allé au casino de ma vie. Et j'arrive donc, je fais connaissance avec cet homme, un homme très très gentil, son épouse très gentille. Ils avaient 2 petites filles très gentilles, très bien élevées, vraiment un couple formidable. C'était pas chrétien, mais vraiment un couple avec des valeurs solides. Et puis, il me dit, écoute, t'es ici, t'es au casino, est-ce que c'est la première fois que tu viens? J'ai dit, oui, c'est la première fois que je viens, je suis jamais venu au casino, j'étais un peu gêné. Mais lui, t'es jamais venu à l'église non plus, donc il était gêné aussi, donc ça allait. Et lui, je vais te faire faire le tour de l'établissement. Mais t'inquiète pas, je te ferai faire le tour de mon établissement un jour aussi. Sois sans crainte, on peut faire ça. Et il me fait visiter donc tout son casino et il me montre les machines où on peut gagner de l'argent, les tables où on peut gagner de l'argent. Puis il y a des gens qui crient, ils ont gagné un petit peu d'argent. Puis d'autres qui pleurent, qui retournent à la banque, qui retournent au guichet. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué, qui m'a interpellé. C'est que tout brille. Tout est illusion, tout est rêve. C'est un outil qui sert à vendre du rêve, à faire espérer, à faire croire. Des gens gagnent. Ouais, on va gagner nous aussi. Et Je pensais, alors que je visitais cet endroit, et j'avais absolument rien contre cet homme, au contraire, c'est mon ami, on se parle, on se côtoie encore aujourd'hui. Mais je pensais à Lucifer, cet ange de lumière, qui nous attire avec toutes sortes de choses qui brillent, nous fait espérer toutes sortes de choses dans ce monde. Dieu ne veut pas nous faire espérer des choses dans ce monde. Dieu veut nous faire vivre quelque chose. Afin de ne pas être attiré par tout ce qui peut briller, nous attirer. Prenons conscience, faisons attention à ce qui nous attire. Qu'est-ce qui fait pencher mon cœur? Qu'est-ce qui incline mon cœur? Dans quel sens mon cœur se dirige? Je veux faire attention, je ne veux pas en venir à tourner le dos au temple en espérant gagner quelque chose là-bas, en me laissant gagner par ce qui brille là-bas, je vais le prendre, ça va changer ma vie. Non, 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 c'est Dieu qui change notre vie. C'est Dieu notre source. Et Dieu est attristé quand son peuple finalement tourne le dos à la bénédiction, tourne le dos au plan, tourne le dos à sa parole, tourne le dos à la confiance que nous avons pu placer un jour. Vous savez, on est des fois dans des réunions comme celle-ci, puis on chante « Je te donne tout, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ceci, je te donne cela », puis on passe la porte et on reprend tout ce qu'on a donné au Seigneur. Et Dieu dit « C'est pas possible, ça va pas, ça. Je veux vraiment que tu m'abandonnes toute ta vie, toutes les sphères, toutes les parties de ta vie, tout ce qui fait ta richesse, j'aimerais que tu me confies tout. Non pas que je vais te confisquer tout ce que tu es, je veux pas te priver de tout ce que tu aimes. Je vais le sublimer, je vais le multiplier et je vais l'utiliser pour bénir les autres. » Je me souviens d'une jeune fille, elle avait 16 ans à peine, on était dans un camp de jeunes, j'étais l'orateur, c'était il y a plusieurs années, et je voyais cette jeune fille dans les rangs, elle était juste malheureuse. Elle portait sur elle une détresse, une misère incroyable. Je vais vers elle et j'essaie de parler avec elle, j'essaie de comprendre pourquoi, alors que tous les autres se réjouissent, alors qu'on vit un temps super, pourquoi elle est assise sur la chaise, puis elle vit rien. Elle est juste écrasée par quelque chose. Ça a pris beaucoup de temps. Mais au bout d'un moment, elle a fini par me le dire, dans les larmes, avec un sentiment de malaise, de dégoût. Elle me dit « Quand j'étais petite, j'étais abusée par quelqu'un qui se disait chrétien dans un camp de vacances. » Cette jeune fille a grandi avec un dégoût, avec un complètement désabusée envers l'Église. Puis ses parents l'obligent, l'inscrivent à un camp de jeunes. « Tiens, va, tu vas être béni là-bas. » À l'époque, ses parents ils n'ont pas voulu réagir. C'est pas grave, ça va aller, on dit rien. Dieu est attristé. Son cœur saigne quand son peuple se laisse gagner par ses penchants naturels. Parce que nous n'avons pas été créés pour ça. Genèse chapitre 1er, dès le départ, dès le commencement, verset 26. Dieu dit ceci, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. » Sur toute la terre, sur toute la terre, nous sommes appelés à dominer. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à vaincre le mal par le bien. Dieu nous le rappelle dans toute sa parole. Il nous donne des capacités. Souvent, on dit « Seigneur, pasteur, viens prier pour moi parce que je ne suis pas capable, parce que je suis faible. » Et puis, on est là pour prier pour les besoins les uns des autres. Comprenez-moi, hein ? Mais ne déchargeons pas notre responsabilité. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à être en position de victoire, de victorieux. Nous sommes appelés à être non pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs, nous dit la parole de Dieu. À dominer. À ne pas nous laisser écraser, mais à écraser l'ennemi. Pourquoi vivons-nous écrasés dans notre situation, avec notre fardeau? Peut-être qu'il y a plein de domaines où ça marche bien, puis il y en a un qui nous écrase. Domaine de la pureté, on n'y arrive pas. Domaine de l'intégrité, on n'y arrive pas. Domaine du mensonge, on n'y arrive pas. Et Dieu dit, je t'ai confié une capacité, je t'ai fait à mon image, afin que tu domines. Je ne t'ai pas créé comme un animal, mais je t'ai créé afin que tu domines. Je t'ai créé pour que tu domines, pour que tu me ressembles. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je t'ai créé à mon image, dit Dieu. Et Dieu ne se laisse pas écraser. Dieu est un Dieu de victoire, on le chante, mais il fait de nous des hommes et des femmes victorieux. Beaucoup ici, tous d'ailleurs, ne connaissent pas mon père. En principe, vous ne connaissez pas mon père. Hein ? Quand j'étais petit, j'ai passé toute mon enfance à entendre que je ressemblais à mon père. Toute mon enfance. Toute mon enfance, depuis tout petit, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu que je ressemblais à mon père. Et moi, quand j'avais 5, 6, 7 ans, je disais, c'est pas vrai. C'est juste pas possible. Lui, il est grand, moi, je suis petit. Lui, il a de la barbe, j'en ai pas. Je ne peux pas ressembler à mon père. Il faut faire quelque chose. Je ne ressemble pas à mon père. Et puis un jour, j'avais une vingtaine d'années, et mon père a trouvé dans ses papiers une photo de lui quand il avait aussi une vingtaine d'années. Et combien aimerait voir cette photo ? Alors pour les 6 courageux qui m'écoutent encore, on va me projeter cette photo, et les autres, fermez les yeux, c'est pas grave. Diapo suivante, s'il te plaît. Elle y est pas ? Tiens donc, comment c'est possible ? Elle y est pas, vous serez obligé de me croire. Elle est pas sur le diapo ? Ah bah ça. On fait ça. Bon, écoute. Je suis comme la copie conforme au même âge. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et l'Église est appelée à refléter son papa. On doit pouvoir dire à n'importe quel endroit, en dehors de ces murs, quand je vois ton hospitalité, je vois ton papa. Quand je vois ta générosité, je vois ton papa. Quand je vois ta capacité à pardonner, à faire grâce, je vois ton papa. Quand je vois comment tu te comportes avec tes enfants, je vois ton papa qui est dans le ciel. Quand je te vois faire preuve d'amour, de pardon, d'action envers celles et ceux qui ne pourront pas te le rendre, je vois ton papa dans le ciel. Tu lui ressembles. Nous sommes faits à l'image de Dieu afin de lui ressembler, afin de nous démarquer, de vivre quelque chose de différent. C'est pour ça que Dieu cherche quelqu'un, cherche un homme, une femme qui va lui ressembler pour parler en son nom, pour le refléter dans sa génération. Dieu cherche pour un but. Dieu cherche pour un but. Dieu ne veut pas que son peuple soit en captivité dans un pays qui n'est pas le sien. Vous savez qu'on n'est pas chez nous ici. Les chrétiens, on n'est pas chez nous ici. Déjà dans l'Église, on est chez lui, première chose. Et deuxièmement, sur terre, on n'est pas chez nous. On n'est que de passage, notre maison, elle est là-haut. Il y a une place là-haut avec notre nom, c'est notre pays là-haut. Il y a personne qui dit Amen, mais je vais continuer, c'est pas grave. De toute façon, tout le temps que vous ne dites pas Amen, je continue de prêcher. Quand vous en aurez marre, vous direz Amen. Et Dieu précise qu'ils se tiennent debout. Donc c'est cette idée vraiment de se faire violence, de prendre une position spirituelle, de dire je me lève, j'arrête de me laisser accabler, écraser, je vais résister, je vais me relever, je vais prendre courage. Mais c'est également dans le texte l'idée de s'interposer, qu'ils se tiennent sur la brèche. Debout, tiens-toi sur la brèche. C'est le temps pour l'Église de s'interposer. C'est le temps dans ta vie, non pas d'être écrasé, mais de te lever pour refléter Christ et t'interposer. Dieu cherche aujourd'hui, ce matin, des parents qui vont se tenir sur la brèche, qui vont s'interposer pour leurs enfants, qui vont se tenir sur la brèche, qui vont se tenir dans la prière pour s'interposer entre l'ennemi de leurs enfants et leurs enfants. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes, des maris, des hommes selon son cœur qui vont se tenir sur la brèche afin de ne pas pécher, afin de ne pas sombrer dans quelque chose qui va faire éclater leur foyer. Dieu cherche aujourd'hui des femmes qui se tiennent sur la brèche pour leur famille. Dieu cherche aujourd'hui des papis, des mamies qui se tiennent sur la brèche pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Dieu cherche aujourd'hui une église qui se tienne sur la brèche pour sa génération, pour sa ville. Dieu veut cette ville. Dieu veut la ville de Nantes. Elle vous appartient, les Nantais. Elle est pour vous, cette ville. Dieu la veut. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche pour la ville de Nantes. Il cherche des jeunes, des moins jeunes qui vont se tenir sur la brèche, qui vont s'interposer entre leurs amis qu'ils voient tomber, chuter, vivre quelque chose qui les éloigne, qui les prive, qui leur fait du mal et qui vont prendre leur main, qui vont la mettre dans celle de Dieu. Qui s'interposent, qui font le lien, qui font quelque chose entre l'image qu'on peut avoir de l'Église et ce que l'on vit vraiment. Non, l'Église n'est pas un endroit austère. Non, l'Église n'est pas un endroit triste. Non, l'Église n'est pas un endroit où il fait froid, un endroit de mort, un endroit où il ne se passe rien. L'Église est un endroit de vie, c'est l'endroit où Jésus il se trouve. Et vous êtes et nous sommes l'Église ce matin. Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Être chrétien n'est pas quelque chose de difficile, d'affaiblissant. N'est pas quelque chose de décourageant. L'Église porte un message de vie, d'espoir, de transformation. Nous sommes appelés à vivre dans cette victoire-là, dans ce chemin-là, c'est le plan de Dieu pour chacun, chacune. Je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne debout, qui érige, qui édifie, qui bâtit un mur, dit Dieu. Et je crois que nous bâtissons des murs quand nous nous rassemblons pour prier. Je crois à l'extraordinaire puissance de la prière. Nous tenons dans la prière, nous bâtissons des murs, nous bâtissons des forteresses quand nous prions pour nos enfants. On bâtit des forteresses autour d'eux pour que l'ennemi ne puisse pas passer. Quand on prie pour la ville, les ténèbres reculent. On rentre d'une tournée, on était en Polynésie française avec Dan à la fin du mois de novembre, début décembre, et on a passé une semaine là-bas, et une semaine avant, pendant une semaine, l'équipe sur place qui nous recevait a passé une semaine dans le jeûne et la prière, et ils ont continué quand on était là. Et le responsable de la prière vient me voir à la fin de ces deux semaines pour lui de jeûne, puis il me dit, tu sais Jérémy, les ténèbres ont reculé de l'île. Pas parce qu'on est venu, mais les ténèbres ont reculé de l'île. Parce que l'Église s'est tenue dans le jeûne et la prière. Parce que l'Église a dit non, stop, stop. Pour notre situation, pour notre ville, pour nos familles, pour nos enfants, on refuse, on dit non et on s'interpose et on se tient sur la brèche, on bâtit un mur dans la prière. Chaque fois que tu pries, tu envoies un message en pleine face de l'ennemi, tu lui dis stop! Tu n'auras pas ma famille. Stop ! Tu n'auras pas mon couple. Tu n'auras pas mon esprit. Tu n'auras pas mon cœur. Tu n'auras pas mes finances. Tu n'auras pas mon emploi du temps. Tu n'auras pas mon employeur. Je me tiens sur la brèche pour ce qui est mien, pour ce que Dieu m'a donné. Tout nous vient de Dieu. Prions. Tenons-nous dans la prière. Bâtissons des murs pour que nous puissions renvoyer l'image de Dieu et que l'ennemi ne puisse pas entrer dans ce que nous bâtissons. Puissons-nous renvoyer également son image et nous tenir sur la brèche, nous tenir sur cette brèche vraiment pour que toutes nos actions soient bien réglées. Je crois que la prière ne suffit pas, comprenez-moi. Je vais être prudent avec ce que je dis là. Si je passe ma vie à prier dans le local ici, il ne va pas se passer grand-chose. Dieu nous appelle à prier et Jésus était celui qui priait, qui se mettait au désert, il se mettait à l'écart, il prenait du temps à la prière et c'est un modèle dans ce sens-là. Mais Jésus était sur le terrain. Jésus rencontrait des gens. Jésus était avec celles et ceux qui avaient besoin. Jésus cherchait, sa journée se résumait à chercher celui ou celle qui avait un besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Où est-ce que je peux être utile? Où est-ce que je vais pouvoir annoncer quelque chose? J'ai un message de salut, d'espoir, de grâce, de guérison. C'est qui en a besoin? C'est qui? Ça, c'est Jésus. Et nous sommes appelés à le refléter. Nous sommes faits à son image. L'Église est faite pour aller dans ce sens-là. Nous sommes faits pour aller vers celui ou celle qui souffre, dire « Hey, j'ai un message pour toi, j'ai quelque chose. Dieu peut changer ta vie. Dieu est ton secours. Dieu est ton aide. » La semaine dernière, je parlais avec un homme, 56 ans, 16 ans et demi d'ancienneté, dans la même entreprise. Du jour au lendemain, il reçoit une lettre, tu es viré. Sans motif. L'entreprise doit en trouver un, doit en faire un. Et cet homme, sa vie, c'est son travail. D'un seul coup, bam, ça s'arrête. Pourquoi ? Je rencontre cet homme. Il dit, mais notre monde est injuste, corrompu, c'est pas normal. Je me suis donné corps et âme, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je suis, je l'ai investi dans mon travail. Je me suis donné à fond. Et aujourd'hui, dehors, parce que je suis le motif non avoué, c'est qu'il a 56 ans. Il me dit, c'est injuste. Il y avait une colère qui était là, et je le comprends. Il a raison. Notre monde est injuste. Je ne vais pas lui raconter des contes de fées, c'est vrai, c'est difficile. Mais j'ai un message. Dieu est celui qui veut te faire justice. Dieu est celui qui veut prendre soin de toi. Dieu ne va pas te laisser tomber parce que ton employeur t'a laissé tomber. Et ce sont deux choses différentes. Peut-être que la vie t'a laissé tomber, peut-être que les amis, les circonstances, la famille t'a laissé tomber. Dieu ne te laisse pas tomber. Dieu a une solution, Dieu a un plan, Dieu a une issue. Partageons ce message, l'Église doit partager ce message plus que jamais en 2012. L'Église de Nantes va le faire, je le crois, tout mon cœur. Quand les Nantais veulent ça, veulent ressembler plus que jamais au Seigneur Jésus. Quelques statistiques et je vais à la fin de mon message. Si tu veux, est-ce qu'on les a les stats? Dis-moi oui. Ouais. Lisez un peu ça avec moi. Je voudrais que ça nous rencontre. Nous, vous savez, on est à l'église, on est bien ce matin. On passe 2 heures ensemble et puis ces 2 heures nous font du bien. Ces 2 heures, nous, on les passe dans la présence de Dieu, on les passe dans sa parole. Mais la vie normale, c'est tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Et c'est bon de se retrouver ici. Mais quelques chiffres, simplement pour qu'on réalise. 0,6% de la population française naît de nouveau. Un mariage sur 3 en France finit par un divorce, 1 sur 2 en région parisienne. 2005, 3775 crimes et délits sur le territoire français. 10127 suicides en 2007, la première cause de mortalité chez les jeunes de 25 à 34 ans. Je ne sais pas s'il y a des jeunes de 25 à 34 ans ce matin. Dieu, c'est la réponse. En France, 30% des gens qui vivent dans la misère sous le seuil de pauvreté. 8 millions de familles pauvres en situation de précarité. 25 000 cas de viol en France chaque année. La liste est longue, on pourrait continuer comme ça, puis je ne vais pas énumérer des chiffres et des chiffres. Mais derrière ces chiffres, il y a des gens. Il y a des gens que Dieu aime. Et Dieu passe dans nos églises, passe dans nos rangs, et il dit ce matin, mais je voudrais ce matin que tu prennes conscience qu'autour de toi, il y a des gens qui ont besoin de me voir. Dieu nous appelle à refléter, pas à faire à sa place. On reflète, on prend le miroir, on envoie l'image, tac, de Dieu vers les gens. C'est nous le miroir, on reflète Christ. Tu reflètes Christ, je reflète Christ. Ça m'a appelé à le refléter, à être des témoins, à vivre ce qu'il nous propose. On parle de lui, on le vit tout simplement. Quelqu'un qui va faire le lien, le relais pour témoigner, pour avertir, pour reconstruire. Quelqu'un qui va mettre sa main dans celle de celui qui est écrasé, qui souffre, et dans celle de Dieu, puis faire le lien entre les deux. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Mais la fin du verset que nous avons lu, c'est que Dieu ne trouve pas. Et ce matin, Dieu aimerait trouver des Ézéchiel. Le cœur de Dieu ce matin, c'est de trouver des Ézéchiel à Nantes. Des hommes, des femmes qui se tiennent debout sur la brèche pour leur génération. Les hommes et les femmes qui, ce matin, vont persévérer dans leur foi jusqu'au bout. Les hommes et les femmes qui vont vivre dans la victoire. Les hommes et les femmes qui vont prendre des positions spirituelles pour leur vie, pour leur famille. Des hommes et des femmes qui vont prendre des positions spirituelles pour leur couple, pour leur église, pour leur ville de Nantes. Des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche, qui disent « Stop, c'est fini, moi je veux plus de Dieu maintenant, je veux plus de Dieu dans ma ville, je veux plus de Dieu dans mon travail et je vais le refléter davantage. Je vais arrêter de me tenir écrasé, de dire ça ne marchera pas, mais je me tiens dans une position spirituelle et je crois que Dieu va agir, j'entre dans la foi. » Ézéchiel signifie littéralement deux choses. Son nom a deux significations. L'Éternel fortifie et être accroché à Dieu. Nous avons besoin d'être des Ézéchiel, des gens que Dieu fortifie et des gens accrochés à lui. J'aimerais qu'on termine cette matinée, ce matin, dans la prière. Je crois que c'est là que ça se passe maintenant. Je crois que la parole de Dieu fait son œuvre dans notre vie alors que nous prions, alors que nous prenons position les uns les autres. Je crois qu'il y a des choses, des fois on a besoin que l'autre prie pour nous, mais ce matin Dieu nous appelle pour nous-mêmes à prendre position, une position spirituelle. J'aimerais vous inviter que partout dans ce lieu, on puisse pencher la tête un instant en avant, fermer les yeux, et puis dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici ce matin? Qu'est-ce que je fais dans cette ville de Nantes? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à refléter? Quelle image je donne aux autres? Est-ce que je renvoie l'image de mon Père? Est-ce que je ressemble à mon Père céleste? Je veux ressembler à mon Papa dans le ciel. J'aimerais prier maintenant et j'aimerais vous inviter, vous également, à prier. Et que tous ensemble, on puisse réclamer cette touche de Dieu. Seigneur, je te prie ce matin. Nous sommes rassemblés en ton nom et je prie que tu nous aides les uns les autres à prendre conscience que nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'avons pas de crainte à avoir comme les gens de ce monde. Nous n'avons pas à trembler dans nos difficultés, dans nos épreuves. Que tu peut-être ne nous épargneras pas, mais nous savons que dans nos difficultés et nos épreuves, tu es avec nous. Nous confessons, Seigneur Jésus, que même si peut-être c'est difficile autour de nous, même si les gens vivent dans l'échec, nous vivons autre chose. Nous voulons prendre une position spirituelle, prendre une victoire pour nous-mêmes ce matin, afin de la refléter, afin de la communiquer à celles et ceux que tu mets autour de nous. Seigneur, merci pour l'Église, merci pour cette invention extraordinaire. Merci pour ce lieu où on s'assemble, on se rassemble dans ta présence, on se réjouit dans ta présence. Mais merci parce que tu as un message pour nous, Seigneur. Tu nous appelles à nous tenir sur la brèche pour nos familles, à nous tenir sur la brèche pour notre Église, pour notre ville. Tu nous appelles à nous tenir sur la brèche pour notre entreprise, pour notre patron, pour nos collègues, pour nos amis, nos familles. Nous prenons conscience ce matin de l'enjeu, Seigneur. 2012, si tu reviens, nous voulons être celles et ceux qui te reflètent. Et je prie pour mon frère ou ma sœur qui peut-être ce matin est venu avec un fardeau, est venu avec quelque chose qui l'écrase, qui le tiraille. Je prie ce matin pour plus de toi. Je prie ce matin que ce chant devienne notre réalité. Je prie ce matin que cet hymne, Seigneur Jésus, devienne notre façon de vivre. Nous avons besoin de plus de toi, plus de ta présence, plus de ta vision. Si nous ne voulons pas nous laisser gagner par le train de ce monde, par la philosophie de ce monde, on veut se laisser gagner par toi, Jésus, ce matin. Viens au secours de nos limites, brise nos résistances, brise nos habitudes, Seigneur Jésus, notre suffisance. Non, nous n'avons pas suffisamment reçu de toi. Non, nous n'avons pas suffisamment, nous ne sommes pas arrivés suffisamment, nous avons tout pleinement en toi, Jésus-Christ. Nous voulons réaliser ce que ça signifie. Nous voulons prendre une position de victoire ce matin. Plus de toi, Jésus, dans cette église. Plus de toi dans la vie de mon frère ou de ma sœur. plus de toi dans les couples de cette église, plus de toi dans le temps de cette église, plus de toi dans l'impact de cette église pour Nantes. Plus de toi, Seigneur Jésus, dans l'équipe pastorale, plus de toi dans les anciens, plus de toi dans les serviteurs, les bénévoles, plus de toi à tous les étages, plus de toi dans toutes les sphères de notre vie, plus de toi partout dans notre travail, plus de toi partout dans nos quartiers, plus de toi, Jésus. On ne veut pas plus de nous, on veut plus de toi ce matin. Seigneur, merci de ce que tu nous attires à toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Sonde nos cœurs ce matin. Passe dans les rangs, s'il te plaît, Saint-Esprit. Mets ton doigt, Seigneur Jésus, sur ce qui ne te glorifie pas. On veut le laisser tomber ce matin. On veut plus de pureté, plus d'intégrité, plus de consécration, plus de passion. Moins de nous, Seigneur Jésus, moins de notre égoïsme, moins de matérialisme, Seigneur Jésus. On veut plus de foi pour avancer, plus de victoire. On veut plus de toi pour te refléter. On ne le veut pas pour nous-mêmes, mais on le veut pour toi. On veut te refléter, Papa.